I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui affronte les éléments et les mystères des civilisations perdues pour partir sur les traces de Lost City of Z, le dernier film de James Gray qu'on va explorer avec mes camarades David Honora. Salut David.
Salut Thomas.
Et Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Allez, c'est Nos Ciné, épisode 76 et c'est parti.
Monde de merde, pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Avec ce nouveau film, James Gray nous raconte l'histoire vraie et assez folle du major Percy Fawcett, joué par Charlie Hunnam, soldat britannique à qui la Royal Geographic Society d'Angleterre confie la tâche d'aller cartographier au tout début du XXe siècle une zone inexplorée de la Bolivie. Le voilà en pleine Amazonie, flanqué d'un assistant, Henry Costin, alias Robert Pattinson, aux côtés duquel il va se prendre de passion pour l'endroit où, il en est persuadé, vécut une civilisation millénaire dont il veut retrouver la trace, précisément celle d'une ville mythique qu'il baptise Z. À ces explorations vont s'ajouter les tourments de la Première Guerre mondiale, magnifiquement reproduite d'ailleurs, il faut le dire, par Gray, c'est un des moments les plus vibrants du film, mais aussi les travers des hommes, notamment l'implication d'un explorateur totalement scélérat joué par Angus McFadden.
You are the explorer? Give me a hand.
I wish to find a lost city.
What you seek is far greater than you ever imagined. It is your destiny.
Nos deux amis ont vu ce Lost City of Z, donc ça s'appelle La Cité Perdue de Z, hein, je le dis pour
les... Ah
oui, il y a un titre français, ils sont allés jusque-là. Qu'en avez-vous pensé, messieurs? On va commencer par David.
C'est magnifique.
Ah.
Non, c'est un nouveau grand film de James Gray. Moi, j'ai pas été finalement, contrairement à beaucoup de gens dans mon entourage, si client de James Gray à ses débuts. Je trouve
tu veux dire que tu as préféré The Immigrant à The Yards?
Exactement. Non, j'aime beaucoup The Immigrant, et pour moi il y a un tournant dans sa filmographie à partir de Two Lovers. En fait, ce que je reproche à ses premiers films, c'est d'être beaucoup trop sous l'emprise de Coppola, qui est vraiment son mentor en termes de cinéphilie, sa référence ultime, qui est encore d'ailleurs une référence. Enfin, je vais en parler un peu après, de manière différente dans celui-ci. Et pour moi, à partir de Two Lovers, il commence à s'en émanciper un peu et à dépasser le côté un peu reproduction, variation thématique autour du cinéma de Coppola. Et donc c'est un film qui porte depuis assez longtemps. C'était un projet qui à la base était, je crois, écrit et prévu pour être joué par Brad Pitt, oui, pour le rôle
tout
principal.
À fait. Qui du coup a refusé parce qu'il ne voulait pas jouer le rôle d'un Britannique. Enfin, il préférait que ce soit un acteur britannique qui joue le rôle du personnage principal.
Et pour le coup, je trouve que Charlie Hunnam, c'était un personnage principal de la série Sons of Anarchy, oui, et de Pacific Rim, que je trouve excellent. Vraiment, enfin, c'est un acteur que j'aimerais voir beaucoup plus souvent au cinéma. Et donc le sujet du film est assez anticlimatique, comme on dit, parce que il s'agit de la quête de quelque chose qu'on va peut-être jamais trouver, et ça prend un peu à revers le genre du cinéma d'aventure. Alors il y a une scène d'ouverture qui est exceptionnelle et qui est une scène de chasse,
oui,
en Irlande,
oui,
qui enfin on voit ça, et c'est le genre de scène qui fait se rappeler ce que ça peut être aussi le grand cinéma classique, et c'est assez époustouflant. Enfin, on est tout de suite dans quelque chose, on se dit ok, il va pas se foutre de ma gueule pendant 2 heures. Et puis ensuite le film arrive à finalement raconter beaucoup de choses autour de cet univers visuel qui pour le coup est dérive du cinéma aventure, avec l'exploration de la jungle, la rencontre avec les autochtones, ce genre de choses, et qui en même temps raconte une histoire presque existentielle sur la place de l'individu dans le monde. Et c'est assez intéressant, c'est que le personnage principal, en fait, affronte une de ses motivations de départ, c'est de s'émanciper des castes et des codes, et il doit un peu laver l'honneur de son père.
De son père, oui.
Et il veut sortir de ça, il veut aller contre la structure de la civilisation et essayer de prouver que justement la manière dont elle est structurée est une fausse piste. Et en même temps, le film, par plein de moments, impose au personnage de reproduire ses schémas, notamment lui avec sa femme, qui passe son temps à la réduire à sa condition de femme.
De mère.
Alors qu'elle, elle serait prête à partir dans la forêt avec lui. Et voilà, il y a vraiment énormément... Enfin, c'est d'une richesse thématique absolue. Et voilà, c'est un film qui... Et puis, par ailleurs, moi, je l'ai vu à la Cinémathèque. Ils ont fait l'avant-première à la Cinémathèque dans le cadre d'un hommage au chef opérateur, Darius Kondji, c'est ça ?
Kondji, ouais.
Qui est un très, très grand chef-op. Et ce film en est vraiment la démonstration. Visuellement, c'est époustouflant.
Ah, Stéphane ? Ça, c'est évident. C'est un film qui est somptueux, visuellement. Effectivement, tu parlais de cinéma classique, et ça, il faut vraiment insister là-dessus. C'est pas un film d'aventure, tel qu'on peut en avoir ces dernières années au cinéma. C'est vraiment, ça renvoie à une époque révolue. C'est tourné en pellicule, ce qui est quand même, à mon avis, assez compliqué à faire quand tu tournes en décor naturel en Amazonie. Donc, en plus, James Gray, qui sort complètement de son élément, hein, c'est quand même un cinéaste new-yorkais, je pense assez urbain, qui a l'habitude très, très de... Voilà. Moi, je mettrais un petit bémol quand même, c'est aussi somptueux soit le film, aussi riche soit-il thématiquement, moi j'ai tendance à sortir, j'ai tendance à ne pas arriver à rentrer totalement dans tout ce que ça raconte. C'est-à-dire que tout ce que tu as dit, c'est là, c'est évident. Moi, par exemple, le manquement que j'ai, c'est... Il y a un accent qui est mis énormément sur l'aspect, pas lutte des classes, mais l'aspect, position sociale, qui ne trouve absolument pas son pendant, je trouve, de manière anthropologique, quand il se retrouve face aux tribus, en fait, sur place là-bas, parce qu'il y a tout simplement cette logique qui peut expliquer, dire, voilà, c'est par rapport aux gens de son époque. Il ne les considère pas comme des sauvages, il les considère comme des humains, en fait, des êtres humains. Ce qui peut se comprendre vis-à-vis de la position qu'il a au sein de sa propre société, la société anglaise, et le fait qu'ils doivent laver le nom de sa famille. Mais le problème, en fait, c'est que ça suffit à lui donner une ouverture, en fait, vers les tribus et vers les gens là-bas. Et il n'y a absolument aucun moment où on explique, où on montre la difficulté, parce qu'à mon avis, c'est aussi une des grosses difficultés qu'il a pu avoir au fur et à mesure où il s'est confronté à cet Eldorado qu'il a cherché. C'est tout simplement la communication, le langage avec ces tribus-là. Et c'est quelque chose, en fait, qui n'est pas du tout mis en avant. C'est-à-dire qu'il arrive, et soit il y arrive, en fait, c'est-à-dire soit les gens l'écoutent, soit les tribus l'écoutent, soit les tribus l'écoutent, soit ils l'attaquent. Donc, et ça, je pense que c'est une vision, pour le coup, d'une personne urbaine. C'est-à-dire que c'est une vision un peu détaché du sujet. On a le point de vue, en gros, de Percy. On a cette logique de l'explorateur qui veut refaire le monde à sa manière et retrouver en fait les choses qui y manquent. C'est un cartographe à la base, hein, c'est ça aussi l'idée, c'est qu'il doit vraiment, on l'envoie là-bas pour faire la carte en fait du lieu.
De la zone où il se retrouve. Ouais.
Et c'est pour ça qu'il est voilà. Donc ça, c'est assez. Il y a plein de sujets intéressants qui, malheureusement, je trouve, sont un peu mis de côté pour traiter des choses. Par exemple, tu parlais de ce personnage, j'ai oublié le nom du personnage, mais qui est interprété par Angus McFadden.
Oui, voilà, j'ai oublié son nom aussi, mais James quelque chose.
Même si c'est probablement dans l'histoire, c'est un vrai personnage ouais. Et c'est probablement là. C'est surtout servi en termes de thématique pour revenir sur l'Angleterre. Et il y a beaucoup de choses qui me font revenir sur l'Angleterre en permanence, alors que j'aimerais partir dans la jungle avec lui,
mais
et trouver cette...
Quelque part, c'est symptomatique de ce que te raconte le film, parce que lui aussi n'arrête pas de revenir en Angleterre et là-bas n'arrête pas de vouloir repartir.
Tout à fait, mais bon, on va pas spoiler la fin pour ceux qui connaissent pas forcément l'histoire de cet homme, de cet explorateur. Mais voilà, l'idée, c'est que j'aimerais surtout, parce que c'est le sujet du film, me perdre dans cette fascination qu'il a, la comprendre totalement à travers ce qu'il a vécu sur place, c'est-à-dire pas uniquement... Il y a des logiques familiales en fait qui sont très intéressantes dans le film et qui, moi, je pense, se sont ancrées dans ce que James Gray aime. Moi, j'avais beaucoup aimé Little Odessa à l'époque où j'ai vu le film il y a 20 ans. J'étais assez surpris pour un premier film. J'ai trouvé ça hyper maîtrisé. C'est un tout petit film et du coup, j'étais très déçu par The Yard, parce que je trouvais que c'était une répétition assez molle finalement du premier film. J'aime bien certaines choses dans La Nuit nous appartient, pardon, et moins d'autres, mais il y a des très belles choses. Le souci, c'est que voilà, c'est tant que ça traite la famille et ce genre de choses, c'est quelque chose qui lui parle de toute évidence et ça fonctionne dans le film. Il y a l'idée d'abandonner la famille derrière lui pour et voire même repartir avec son fils qui et toutes ces scènes fonctionnent. Elles sont pour le coup, c'est les scènes émotionnelles fortes en fait, je trouve, parce qu'elles sont vraiment tu y crois, mais cette vision en fait d'un autre monde, ce rêve en fait éveillé, c'est quelque chose qui pour moi est, je reste sur le pas de la porte. En fait, je vois pas du tout le c'est-à-dire, même si le film est somptueusement filmé, enfin même si encore une fois les cadres sont magnifiques, la lumière est formidable. Pour situer, pour les gens qui ne connaissent pas forcément Darius Conji de nom, c'est le chef-op de Seven, de David Fincher, donc c'est quand même du haut niveau. Quoi. Donc voilà, même si c'est somptueux, je ne touche pas la folie de ce rêve, en fait, je ne la ressens pas totalement. Et c'est la chose qui me manque en fait, quand je regarde ce film.
Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et c'est effectivement une des limites du film d'être en fait... Enfin, pas seulement ethnocentré, mais en fait être aussi finalement la jungle est presque un prétexte pour raconter une histoire intime, et tout le film se joue surtout sur la relation entre lui et sa femme
et son rang en Angleterre,
qui est un deuxième degré, mais
qui est lié à la famille.
En tout cas, la conclusion du film ramène à la relation intime et au fait de se rejoindre, de se perdre dans la jungle. Et il y a peut-être autre chose qu'on peut raconter, c'est aller même plus loin dans cette dimension intime et personnelle pour James Gray, c'est justement dans le parallèle avec Coppola, c'est que peut-être une des motivations de ce projet pour lui, c'est de faire son Apocalypse Now, et comme disait Thomas, d'aller se frotter à la jungle et d'embarquer les caméras à 35 mm dans des conditions de tournage extrêmement difficiles. Enfin, apparemment, ils ont complètement chié sur le tournage. Oui, il y a eu des maladies, des problèmes, des moustiques, tout ça.
C'était très, très dur.
Ce qui est une évidence, ce qui est aussi une des raisons pour laquelle le film a mis du temps à se faire, c'est qu'il tenait absolument à le faire in situ en Amérique du Sud et pas aller tourner en Chine ou en Afrique du Sud ou ailleurs où il aurait pu tourner dans des conditions peut-être plus faciles et pour moins cher.
En termes de panorama, il faut quand même spécifier que même si moi je n'ai pas le ressenti absolu, c'est magnifique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est payant en fait à l'image quand même. Hein. C'est vraiment beau. Hein.
Et du coup, je te rejoins dans le fait que effectivement, on reste émotionnellement un peu à la lisière parce que là où se situe l'action est pas assez incarné, et notamment parce qu'il n'y a pas de personnage écrit d'un autochtone, en fait. Enfin, il n'existe pas, ils font partie du décor. Alors après, il se passe des choses entre eux, et notamment, on voit à un moment, il y a un affrontement entre deux tribus qui montre que finalement, les relations civilisationnelles, et que ça existe aussi, aussi là-bas. Mais voilà, après, pour moi, James Gray est avant tout un cinéaste de l'intime qui s'intéresse au cinéma de genre, mais pour raconter des histoires hyper, hyper intimes et hyper personnelles. Quand il fait ça dans La nuit nous appartient, il a une manière d'aborder les scènes d'action.
C'est une question de point de vue. Hein. Tu sais, par exemple, tu prends cet exemple dans La nuit nous appartient, et le truc que j'aime beaucoup, par exemple, la scène que j'aime beaucoup, c'est la scène de mi-parcours, qui est liée à la poursuite en voiture sous la pluie, qui est liée à la mort d'un personnage important. Ça fonctionne super bien parce que c'est abordé sous un vrai point de vue. C'est-à-dire le point de vue des personnes qui sont dans la voiture arrière et qui ne savent pas ce qui se passe. Donc en fait, le spectateur est complètement embarqué à ce moment-là dans la même logique. Et inversement, une scène d'action finale, la scène d'action finale est beaucoup plus traitée comme un drame et pas comme une scène d'action, et du coup, pour moi, ça fonctionne beaucoup moins, on est détaché, en fait, de ce qui se passe à ce moment-là. Et c'est un peu le souci que j'ai, c'est-à-dire que je pense que c'est un cinéaste qui est très très fort, en fait, pour tout ce qui est général, dans les films, en fait, tout ce qui est, il va apporter un soin au costume, un soin au scénario, sur les thématiques, apporter un soin au cadre, apporter un soin à toutes ces choses-là, mais ça va rester très, pas scolaire, mais, ça ne va pas forcément toujours adopter le point de vue, sauf si tu as l'impression qu'il y croit vraiment. Moi, par exemple, dans La nuit nous appartient, un des personnages les plus importants et les plus touchants, je trouve, dans le film, c'est le personnage d'Eva Mendes. C'est un personnage féminin qui est très fort, qui fonctionne très bien, parce que tu ressens tout ce qu'elle peut subir par rapport aux deux autres personnages, à la famille dans laquelle elle n'appartient pas à la base, puisqu'elle est la pièce rapportée, c'est par alliance. Et tout ça, ça fonctionne super bien, mais c'est encore une fois lié au cadre de la famille, ce genre de choses. Là, dans ce film-là, même quand la famille finalement est intégrée dans le rêve, avec l'arrivée du fils, j'ai quand même l'impression d'être dans un espèce de jeu. C'est beau, c'est magnifique, mais c'est pas ma place. Mmh. Et c'est l'impression que j'ai, en fait, quand je vois ce film, c'est que James Gray, quand il est dans la jungle, il n'est pas à sa place. Et du coup, c'est dommage parce que tu peux effectivement apprécier le décorum, tu peux apprécier tout ça. Mais moi, j'aurais voulu toucher la folie du personnage et la perte, en fait, tout ça. Tu vois, c'est bon, je me répète, mais voilà. Et je t'ai coupé en plus, pardon.
Non, tu ne m'as pas coupé. Enfin, je sais plus ce que j'étais en train de dire, en tout cas. Mais,
subjugué qu'il était par ta démonstration.
Mais voilà, il y a un truc aussi qui serait intéressant de raconter, c'est que...
Pour conclure,
c'est,
alors.
Pour conclure, c'est que... Enfin, on parle de James Gray et un peu comme si c'était un cinéaste assez connu et reconnu en France. Et ce n'est pas tant le cas que ça aux États-Unis. Il a fait cette semaine un petit peu polémique en s'exprimant sur le Festival de Cannes et le fait que... Il a dit en gros qu'il avait l'impression que le Festival de Cannes avait formaté une partie du cinéma à faire des films chiants. Et en fait, c'est quelque chose d'assez paradoxal, le cas de James Gray, c'est que en fait, il existe et il est connu dans l'univers du cinéma grâce à Cannes, et il s'en prend plein la gueule à chaque fois qu'il y va, beaucoup par la critique internationale. Et il est quasiment inconnu aux États-Unis. J'ai réalisé un truc marrant en regardant sa fiche Wikipédia. En anglais, qui est 3 ou 4 fois plus courte que la fiche Wikipédia française. Et donc c'est vraiment un cinéaste qui est connu et reconnu en France et pas du tout encore dans son pays, même si ses deux précédents films ont eu un peu plus de succès que les premiers.
Pas autant que ses deux camarades d'école, J.J. Abrams et Judd Apatow, parce que oui, il a fait ses études avec les deux en même temps.
Comme quoi, ils n'ont pas compris les mêmes choses.
Tu allais en parler dans
tes recos, parler pour ma reco.
Ah bah justement, puisque tu me tends la perche, David, avant qu'on se quitte, les petites recommandations d'usage. Donc David, tu allais parler, je suppose, de cette masterclass qu'on peut voir sur Internet.
Exactement, en fait, j'allais parler de... je répète que j'ai vu le film à la Cinémathèque et donc que j'ai vu ensuite la masterclass de James Gray. Il a raconté à cette occasion une petite anecdote en racontant qu'il a vu à la fac le film Le Guépard, auquel on peut penser dans le film, notamment avec la scène du bal au début, donc le guépard de Visconti qui a eu la Palme d'Or en je ne sais plus quelle année.
Oula, moi non plus.
Et il raconte qu'il a vu ce film à l'époque avec trois camarades dont il n'a pas voulu dire le nom,
mais
qui sont devenus des grands réalisateurs très célèbres. Et donc, quand on regarde un peu les gens qui étaient dans sa promo, il y a effectivement J.J. Abrams, Matt Reeves et Joe Tapato.
Oui, c'est Matt Reeves le troisième.
Et ces trois-là. J.J. Abrams regardait le guépard.
Et en fait, oui, pardon.
Au bout de 5 minutes.
La fin de l'anecdote, c'est que ils ont regardé le film ensemble et à la fin, parmi les quatre, le seul qui était encore éveillé, c'était James Gray.
Voilà. C'est assez symptomatique. Ouais. Ça veut dire beaucoup de choses. Stéphane, quel est ta reco, toi? On n'a pas reprécisé, mais cette masterclass, on peut la regarder sur Internet.
Sur le site de la Facebook d'Arte et sans doute sur le site de la Cinémathèque.
Très bien, on mettra le lien là où il faut sur la page de l'émission. Et Stéphane, ta reco à toi?
Alors, ma reco, ça va être un peu particulier, mais il y a une connexion. On a dit James Gray, cinéaste urbain, qui va dans la nature. Et ben moi, j'ai parlé d'un cinéaste de la nature, en fait, qui n'est pas urbain, justement, qui est John McTiernan. Et je vais parler de Medicine Man. Alors Medicine Man, il y a aucun rapport vraiment avec Lost City of Z. Ce n'est pas du tout le même sujet. C'est en plus pas forcément le meilleur film de John McTiernan, mais là où j'y vois une connexion, c'est que c'est, je trouve, un des films où la jungle est le mieux filmé de ce que j'ai pu voir, en fait, ces 40, 50 dernières années.
Tu as déjà 50 ans.
J'ai déjà 50 ans, non, mais ce que je veux dire du cinéma de ces 50 dernières années. Et surtout, c'était quelque chose qui tient, et c'est quelque chose qui tenait à cœur à McTiernan en abordant le projet. Il faut savoir que McTiernan a fait un autre film dans la jungle qui était Predator. Ouais. Et sur lequel il a eu d'énormes frustrations quand il a fait le film, parce qu'il a jamais, à son sens, McTiernan est quelqu'un de très exigeant avec lui-même. Il n'a jamais réussi à filmer la jungle telle qu'il la ressentait, en fait. Et il est parti avec le même chef op. C'est la seule fois où ils ont retravaillé ensemble, c'est Donald McAlpin, dans la jungle pour Medicine Man. Et pour le coup, c'est une vraie logique d'obsession. C'est-à-dire que tout ce qui fonctionne généralement chez McTiernan ne fonctionne pas dans Medicine Man. C'est-à-dire le récit global est un peu brinque-ballant. Les personnages sont pas super attachants, surtout quand il s'appelle Lorraine Bracco, qui est vraiment agaçante. Sean Connery, il est un peu en mode automatique. Mais il y a la jungle. Il y a juste la jungle comme tu l'as jamais vu filmer autre part, parce que c'était vraiment son obsession. Et du coup, en fait, moi je conseille le film pour ça. Malheureusement, c'est un peu difficile de voir. Il y a que des DVD un peu pourris qui sortent.
Il a pas été édité en Blu-ray, est-ce que ça...
Non, pas en Blu-ray, non. Bah, c'est un film qui est complètement oublié. Hein, même s'il y avait des grands espoirs à l'époque où le film est sorti, il y avait des grands espoirs sur le film, puisque c'était par le scénariste du Cercle des Poètes Disparus, McTiernan qui sortait d'Octobre Rouge, c'était la réunion avec Sean Connery. C'est un film qui est complètement passé inaperçu et qui n'a pas vraiment marché en salle. Mais il y a la putain de jungle. Il y a notamment une scène incroyable où il monte dans les jungles, monte dans les arbres avec Lorraine Bracco et Sean Connery monte dans les arbres avec la musique somptueuse de Jerry Goldsmith, qui est un de ses plus beaux thèmes, je pense. Voilà, donc c'est du cinéma par, enfin c'est, il y a une porte d'entrée très spécifique pour moi si je vous conseille ce film. Je peux pas vous le conseiller comme un grand film de McTiernan. Bon, je vous conseille le reste de la filmo si vous voulez, mais pas celui-là. Mais par contre, pas forcément celui-là pour commencer. Mais voilà, il y a la jungle telle que vous l'avez jamais vue au cinéma, à mon sens, et c'est dans Medicine Man de John McTiernan.
Et sinon, si vous voulez aller au cinéma, il y a donc The Lost City of Z, la cité perdue de Z, et c'est en ce moment à voir. Notre temps est écoulé. Merci à tous les deux, merci à Jules à la technique, merci à l'antenne Paris pour l'accueil, nosciné.com, binge.audio pour toutes les infos utiles. Si vous nous écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note, ça nous fait toujours très plaisir. Puis on vous dit à très bientôt.
Salut, c'est Mehdi Maizi, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.